Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour, monsieur Alain.
Les appels sont nombreux, notamment ceux des États-Unis d'Amérique, des envoyés spéciaux, de certaines ONG, voire même de certaines élites intellectuelles congolaises pour demander aux autorités congolaises de reconsidérer leur position, de ne pas discuter avec le M23. Au regard de l'escalade sur terrain, votre position reste-t-elle immuable?
J'aimerais mettre le point sur les i. Alors, quand vous parlez des États-Unis, nous, de notre côté, nous n'avons pas reçu une communication officielle des États-Unis ou encore de certains envoyés spéciaux, comme vous êtes en train de mentionner. Il serait intéressant, de toute façon, de recevoir ça. Mais dans tous les cas, par rapport à votre question, notre ligne n'a pas changé. Nous ne négocierons pas avec le M23, nous ne discuterons pas avec le M23. Pourquoi? Parce que le M23, il n'y a rien qui a changé dans sa structure. Le M23 reste les papettes du gouvernement rwandais, les papettes de la Rwandan Defense Forces. Tant que cela ne changera pas, nous ne discuterons jamais avec eux. Deuxièmement, qu'est-ce qui a changé sur le terrain pour qu'aujourd'hui le gouvernement congolais puisse reconsidérer sa position? Rien du tout. Bien au contraire, les choses se sont empirées. Le Rwanda n'a respecté aucun engagement pris au niveau régional avec toutes les initiatives de paix qui ont été lancées, que ce soit à partir de Luanda ou encore de Nairobi. Le Rwanda n'a pas bougé d'un seul iota malgré toutes les pressions qu'ils reçoivent des États-Unis que vous êtes en train de mentionner notamment. Souvenez-vous que les États-Unis sont quand même l'une des premières puissances à avoir condamné nommément le Rwanda comme étant cela qui agresse la RDC. Et deuxièmement, vous avez sûrement suivi que les mêmes États-Unis ont commencé un processus de sanctions contre les officiers rwandais, les officiers actifs rwandais. Donc, pour nous, la position n'a pas changé. Nous ne discuterons pas avec le M23 parce que les engagements pris par leur maître de Kigali ne sont pas respectés.
Vous parlez de Luanda et de Nairobi, mais on parle de moins en moins, du moins en public, des efforts de la facilitation et autres acteurs bilatéraux et multilatéraux pour obtenir la résolution de la problématique des groupes armés, y compris le M23. Quels sont les derniers développements? Luanda, Nairobi ont-ils échoué?
Alors, ce que moi j'aime quand vous utilisez le mot, l'expression « pas en public », tous les processus de Nairobi, par exemple, Nairobi 1, 2 et 3, ne regardez pas la facette qui
transparaît.
Voilà, parce que tout a toujours commencé par des discussions, des réunions sous les radars, si je peux le dire ainsi. Il y a des discussions diplomatiques qui sont également faites, malgré que sur la surface, ça n'apparaît pas.
En off.
Oui, ça se fait en off. Et quand tous les éléments sont réunis, c'est là que nous annonçons généralement une réunion ou un processus. Nous parlons aujourd'hui de Nairobi 4. En fait, n'oubliez pas qu'en Nairobi 3, les groupes armés locaux qui étaient réunis avaient pris des engagements. Et de l'autre côté, l'État s'était également engagé à faire certaines choses. Par exemple, se pencher sur la question des détenus qui étaient sortis de ces groupes armés. D'accord? Nous sommes en pleine discussion à notre niveau pour voir comment commencer notamment à se pencher sur le cas par cas de certains membres des groupes armés, parce que nous avons finalement reçu la liste des détenus appartenant à chacun de ces groupes armés qui étaient à Nairobi 3. Alors, maintenant, c'est seulement quand nous serons prêts que finalement nous pourrons aller vers eux pour dire, voilà, nous avons respecté notre partie et voilà, de votre côté également, les engagements qui étaient pris devront être respectés. Il y a, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur la façon dont nous pouvons continuer à avoir des mesures de transition pour pouvoir aider certains ex-combattants à rentrer dans la vie civile. Alors, tout ceci se fait d'une certaine manière. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique que les choses se font pour dire, voilà, nous avons Nairobi 4. La même chose avec le processus de Luanda, qui, lui, a été chargé de s'occuper de baisser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, la situation sur terrain, là où le Rwanda continue à renforcer et à se rendre coupable de l'agression, c'est tous les jours de l'agression contre la RDC. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même certains réajustements qui doivent être faits avant de pouvoir siéger, que ce soit au niveau ministériel comme au niveau des sommets des chefs d'État.
On a suivi le président de la République samedi au sommet des trois bassins, oui, à Kintele et à Brazzaville, faire pratiquement une digression du climat. Il a reparlé de l'agression rwandaise, évidemment, oui, qui détruit la biodiversité dans le parc de Virunga. Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui disent que la RDC ne fait que pleurnicher et ne prend pas suffisamment ses responsabilités?
Alors, je ne pense pas que la RDC ne fait que pleurnicher, mais il existe, comme vous savez, des fronts différents. Il y a le front diplomatique et le front communicationnel. Et ça, par exemple, vous voyez ce que le chef d'État a fait hier, c'est à la fois le front communicationnel de la communication ainsi que le front diplomatique. Mais également sur terrain, il y a quand même l'option militaire qui était d'ailleurs prévue par le processus de Nairobi. L'option militaire sous-entend que nous, la RDC, et ça, nous, encore une fois, nous félicitons sous l'excellence de Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir lancé ou démarré ce processus de renforcement de notre armée, ce processus de montée en puissance de notre armée, n'est-ce pas? Vous savez que pendant plus de 18 ans, cette armée n'a fait que être détruite, cette armée a été infiltrée jusqu'à sa moelle épinière. Alors, reprendre les choses comme ça en quelques mois, moi personnellement, je félicite cette initiative du chef de l'État, parce que toutes les autres forces étrangères, y compris la MONUSCO d'ailleurs, généralement, elles viennent pour appuyer les FRDC, n'est-ce pas, et nos forces de sécurité. Alors, tant que de notre côté, du côté des FRDC, les choses ne seront pas encore prêtes, bien sûr, nous allons continuer avec la diplomatie, parce que la diplomatie sert à cela. D'ailleurs, même s'il faudra lancer des opérations militaires, n'est-ce pas, après tout, en lançant des opérations militaires, ça ne veut pas dire que vous fermez la porte diplomatique. La diplomatie doit toujours prévaloir, la diplomatie doit toujours laisser sa porte ouverte pour les discussions avec soit dans le bilatéral, soit au niveau multilatéral.
Vous faites allusion aux forces étrangères. Le départ de celle de l'EAC est annoncé pour le 8 décembre. Est-ce que c'est toujours confirmé? Si oui, quel pourrait être l'instrument militaire qui jouera le rôle tampon à la place de la force de l'EAC?
Alors, je voudrais rectifier quelque chose. Même la force de l'EAC, quand elle a été déployée, elle n'a pas reçu mandat de créer une zone tampon entre les FRDC ou le gouvernement congolais et le M23 ou encore les autres groupes armés, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que nous soyons d'accord dessus. Alors, il est donc hors de question que nous parlions d'une certaine zone tampon, qu'une force peut le faire. Encore une fois, le travail sur terrain a toujours été l'apanage et le rôle des FRDC de protéger ses populations et de protéger notre territoire. Alors, ce qui est vrai, c'est que, tel que les circonstances se présentent aujourd'hui, il n'y a rien dans le tunnel qui montrerait que le mandat de la force régionale sera renouvelé après le 8 décembre, n'est-ce pas? Maintenant, que ce soit renouvelé ou pas, comme vous le savez, à partir du 8 décembre, ça ne veut pas dire que les forces qui se lèvent aujourd'hui et quittent le même jour. Il y a quand même tout un processus de désengagement, hein, c'est quand même toute une force, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme logistique et administration, mais au moins le désengagement pourra commencer. Mais le rôle revient toujours au FRDC, n'est-ce pas? Donc là où l'EAC va se retirer, ben les FRDC seront là pour prendre le relais.
Alors pour terminer, professeur Serge Tshibangu, la principale pomme des discordes avec le M23, en plus des autres différences, c'est le pré-cantonnement. Pensez-vous que le changement à la tête du PDD-RCS va accélérer cette question?
Alors, je pense que si le chef de l'État a pris cette décision de nommer de nouveaux animateurs à la tête du PDD-RCS, je pense qu'il a, parce que cette institution avait besoin probablement d'un nouveau souffle, d'une nouvelle énergie positive qui pourrait donc aider à ce que ce programme puisse réellement servir, hein, notamment aux ex-combattants, en les absorbant et pour les préparant pour pour la prochaine vie civile, n'est-ce pas? Donc je crois que oui, ça va sûrement aider, n'est-ce pas? Mais il faudra savoir que dans tout ce qui a été mis comme des processus de Nairobi et de Luanda, l'objectif final, c'était justement de donner une chance aux groupes armés locaux, notamment congolais, de pouvoir donc déposer les armes et se mettre disponibles par rapport au PDDRCS pour les préparer, comme j'ai dit, à la vie civile, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y a une bonne synergie entre la redynamisation des animateurs du PDDRCS ainsi que les processus de Nairobi et de Luanda qui continuent leur chemin, mais la finalité c'est d'avoir donc ces ex-combattants qui sont absorbés et qui rentrent dans la vie civile.
Professeur Serge Tshibangu, merci.
C'est moi qui vous remercie.